Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro. Au micro pour une 11e saison de cette émission. Donc, ça fait 11 ans, ou ça va faire 11 ans, que j'ai le plaisir de vous parler bande dessinée, que j'ai le plaisir d'explorer avec vous l'univers du 9e art avec un regard tout particulier pour la production québécoise. Un plaisir qui est évidemment renouvelé année après année après année. Un plaisir qui est fait aussi dans l'apprentissage, je pense. En fait, j'allais voir mes premières émissions sur laviambd.com. Toutes les archives sont là. Et évidemment, les éléments ont progressé. C'est pas juste les auteurs et autrices qui évoluent dans leur pratique, mais il y a aussi les chroniqueurs et les journalistes. Et bref, c'est un plaisir de faire cet apprentissage avec vous. J'imagine si vous m'écoutez, c'est parce que vous êtes des lecteurs, parce que vous êtes intéressés par la bande dessinée. Eh bien, moi aussi, je suis un lecteur et je suis intéressé par la bande dessinée d'abord et avant tout. Alors, donc, c'est pour ça que quand je parle d'apprentissage, c'est aussi un regard qu'on se donne, une opportunité qu'on s'offre d'explorer des albums, de comprendre des choix sur les thématiques, évidemment, sur les sujets qui sont abordés, mais aussi sur les manières de les mettre en scène et de les offrir sur la page. Alors ben voilà, j'en dirai pas plus sur la 11e saison, sinon à nouveau, c'est un plaisir évidemment de vous retrouver. Un plaisir qui est un peu amer en ce début de saison. Pourquoi? Ben à cause d'une nouvelle qu'on a eue tout récemment en fait, que j'ai eue dans mon cas quelques heures pratiquement après avoir enregistré en partie à tout le moins cette première émission de la saison. Donc, triste nouvelle où on apprend qu'Henriette Valium, Patrick Henley, de son vrai nom, est décédée. C'est pour la bande dessinée québécoise un grand deuil. Valium était un géant de la bande dessinée qui a laissé une marque qui est claire, qui est indélébile sur le 9e art québécois. Et c'est un auteur, en fait, dont on doit, je pense, lire ou prendre conscience de l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Alors, j'en dirai pas énormément aujourd'hui parce que, de toute façon, je ne crois pas que je suis la personne la mieux placée pour vous accompagner à la découverte de cet auteur-là, mais des personnes bien placées, il y en a, et je tiens à ce qu'on prenne le temps de, justement, lui rendre cet hommage et d'accompagner ceux et celles qui ne le connaissent pas, eh bien, de les amener à connaître ce géant de la bande dessinée et peut-être à le lire. Et pour les autres, ben, de prendre le temps de bien revenir justement sur son œuvre et ce qu'il fait qu'elle est aussi marquante et importante. Valium qui avait, je le mentionne d'ailleurs au passage, mais obtenu un prix hommage lors des BDIS Causa de Québec BD. Donc, ça montre ben, que cette œuvre et son impact étaient reconnus par le milieu de la bande dessinée, ça c'est clair. Mais bref, tout ça pour dire que je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur la nouvelle, mais sachez que l'on va revenir là-dessus d'ici quelques semaines pour justement mettre en perspective le travail de Valium. Alors, je ferme cette triste parenthèse et je vous présente le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Alors, on aura une belle rencontre avec Christian Quesnel et Anne-Marie Saint-Cerny autour d'un ouvrage dont on a beaucoup parlé avec la rentrée littéraire. Il s'agit de Mégantic, un train dans la nuit, une œuvre qui nous amène de façon documentaire, de façon pamphlétaire, de façon onirique vers justement cette tragédie, celle de Mégantic, qu'on connaît, mais dont on ne connaît pas nécessairement tous les tenants et aboutissants, et surtout ce qui a suivi cette explosion. Alors, on parle de ce narratif, mais on parle également des choix qui ont été faits pour le mettre en scène dans ce magnifique album. Alors, ben, c'est l'entrevue de la semaine et le cœur de l'émission pour cette édition de La Vie en BD. Alors, bonne écoute à tous et à toutes! Alors, toujours à l'écoute de La Vie en BD, on plonge maintenant dans cet album qui est arrivé tout récemment du côté des éditions Éco-Société. Ça s'appelle Mégantic, un train dans la nuit. C'est d'Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel. Et les deux auteurs sont avec nous en studio pour échanger justement autour de cet album. Christian Quesnel, bonjour.
Allô Raymond, merci pour l'invitation.
Anne-Marie Saint-Cerny, bonjour.
Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici.
Et ben, d'entrée de jeu, en fait, je pense qu'il faut commencer par la genèse de cet album-là. C'est un album qui, pour Anne-Marie Saint-Cerny, a une longue historique. C'est pas votre premier ouvrage sur Mégantic. Il y a un essai qui l'a précédé. Il y a un gros travail de recherche qui l'a précédé aussi, qui lui a succédé, puisque ce n'est pas terminé non plus. Donc, nécessairement, en fait, d'entrée de jeu, un sujet qui, pour vous, en fait, est nécessaire, est important, au point que qu'on lui consacre, dans le fond, plusieurs années de sa vie pour essayer de faire la lumière, la justice autour de ce qui s'est passé à Mégantic il y a déjà plusieurs années, donc cette tragédie évitable.
Oh oui, je vous remercie de préciser ce mot évitable parce que il n'est pas anodin. Le mot évitable était inscrit 47 fois dans les 47 rapports du coroner des morts de Mégantic. Et ça dit tout en partant, c'est-à-dire que ce n'était pas un accident, comme le prétendent les autorités, mais c'était ce que j'appelle, moi, personnellement, un crime, parce que lorsqu'on dérobe la vie de quelqu'un, volontairement, d'une certaine façon, sachant que ça va arriver, je ne vois pas d'autre mot que le mot « crime ». Et donc, avec tous les acteurs qui viennent avec ça, c'est comme un whodunit, là. Qui, quand, comment, pourquoi? Et ce sont ces questions-là auxquelles j'ai tenté de répondre.
Et tenté de répondre quand même assez rapidement, parce qu'on se rappelle pratiquement 5 jours après la tragédie, vous étiez à Mégantic, vous étiez en train à documenter, à travailler autour de ce qui s'était passé. Donc, rapidement, c'est un sujet qui s'était imposé pour vous.
Oui et non. Je suis arrivée là parce que je travaillais pour une ONG avec Daniel Green, mon collègue de la Société pour vaincre la pollution, et on est à peu près la seule ONG qui s'occupe des victimes de contamination. Et à chaque fois, on se retrouvait avec le même problème. Les victimes n'avaient jamais les données de leur contamination. Et on s'est rendu compte que ça s'alignait pour être la même chose à Mégantic. Donc, on est allé là-bas. Moi, ma première mission était donc de soutenir les victimes, de les documenter pour d'éventuels recours. Sauf que 5 jours après, la seule réponse et la seule explication qu'on avait des autorités, c'était « c'est juste un gars en haut de la côte qui n'a pas mis assez de freins ». Donc, la question qui vient automatiquement à l'esprit, c'est « mais qui donc a permis à un gars tout seul, dans la nuit, sur des rails brisés, de conduire un train brisé qui tirait 72 bombes? » Alors, j'ai pas voulu faire ce travail, mais cette fois-là, je me suis dit « merde, je vais trouver la réponse, quoi qu'il arrive. » Et 8 ans plus tard, je suis encore dans le dossier.
Oui, parce que si c'est pas réglé, ça c'est important de le spécifier aussi d'entrée de jeu avant de trop plonger plus avant, parce que Mégantic, c'est encore quelque chose qui est en cours. Il y a un recours collectif actuellement autour de ça. Et aussi, et je pense que vous l'avez dit, les réponses qu'on cherchait 8 ans, la responsabilité, le qui, c'est pas encore clairement avoué. C'est pas encore, il n'y a pas encore un coupable qui a été ciblé de manière officielle, si on peut dire, autour de cette tragédie-là.
Il n'y a pas de coupables qui ont été effectivement désignés. C'est-à-dire que oui, et on y reviendra plus tard, il y a eu des coupables désignés que toute la population refusait, y compris un jury de 12 personnes, hommes et femmes. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune responsabilité qui a été assumée. Et le silence des autorités entourant la sortie de l'essai Mégantic que j'ai fait, donc de l'enquête que j'ai fait, est assourdissant. Le silence est assourdissant. Le seul et unique commentaire là-dessus a été du ministre Garneau qui a dit « Tout ça, c'est des théories du complot ». Petit point à lui rappeler, c'est que j'ai basé la majorité de mes sources sur des sources officielles, donc ces documents, règlements et lois de Transport Canada et le rapport officiel, le seul, du BST. Alors, il a... J'aime ça souligner la théorie du complot parce que tout de suite, on voit dans quel genre de réponse on se situe.
Ou dans quel type de case on essaie de nous placer et puis de nous discréditer finalement, parce que c'est un mot suffisant pour discréditer complètement un travail de recherche au bout du compte.
Oui, puis je peux lui dire qu'il y a quelqu'un qui l'a mieux fait que lui encore, alors il peut continuer. Monsieur Trump a bien montré la voie et j'ai trouvé ça assez perturbant pour ne pas dire plus. Que le ministre Garneau réponde à toutes les demandes d'explications de la part des gens de Mégantic en premier lieu, qui plaident depuis le début pour une commission d'enquête, que tout ce que cet homme-là, le ministre Garneau, a eu à répondre, c'est une théorie du complot. On sait tout sur Mégantic.
Et donc, c'est dans ce contexte-là aussi, bien, vous l'avez dit, Anne-Marie Saint-Cernier, donc l'essai est arrivé, a été publié. Et par la suite, dans le fond, on décide de poursuivre, donc évidemment parce que le dossier n'était pas clos, mais aussi parallèlement parce qu'on avait envie de présenter autrement, j'ai l'impression, cette histoire-là, parce qu'on est passé d'un médium à l'autre, donc de l'essai vers la bande dessinée, dans un souci, dans une volonté de votre côté de raconter autrement ce qui s'était passé, d'amener autrement ces voix-là, ces témoignages-là?
Oui, d'amener en fait sur la place publique auprès des lecteurs ce que je ne pouvais pas apporter dans l'essai. Dans l'essai, c'est une enquête journalistique avec tous les plus hauts standards, les trois sources corroborantes et tout ça. Mais il y avait des choses que je ne pouvais pas amener ou évoquer, mais avec beaucoup, beaucoup de mots, et notamment la mort, disons-le clairement. Je ne pouvais pas parce que c'était pas le bon format. C'était pas ça que je cherchais. Néanmoins, je l'avais dans les yeux parce que je l'avais vu, la détresse, le désarroi dans les yeux des gens de Mégantic. Et je pense que c'était important de l'apporter. Il y avait autre chose aussi. C'est que dans mon essai, je tenais absolument à ce qu'on dise pas « le système a pas fonctionné », parce qu'un système, j'y crois pas, ça n'existe pas, c'est fait par des hommes et des femmes qui font ou ne font pas certaines choses. La BD a permis de mettre des visages sur ces responsables-là que j'ai nommés, et Christian, avec une maîtrise exceptionnelle, a mis dans la même planche les responsables et les victimes. Et ça, il n'y a aucun essai qui pouvait faire ça.
Donc, c'est ce qui a amené un peu, on se dit, OK, on veut avoir une BD pour l'exprimer autrement. Et de l'idée de l'amener de cette façon-là, avec ce médium-là, éventuellement, c'est aussi, ça vous a dirigé vers, justement, Christian Quesnel, qui est avec nous. Donc, qu'est-ce qui a fait d'un côté que lui s'est imposé pour vous comme le collègue, le collaborateur, le co-auteur parfait pour cette BD-là? Pour Anne-Marie et pour Christian, mais je te demanderai qu'est-ce qui t'a fait embarquer aussi peut-être dans ce projet-là.
Alors, je rends d'abord hommage à l'éditeur Éco-Société et David Murray, qui ont eu l'idée d'amener l'essai en BD, mais aussi qui ont eu le courage de la publier. Parce qu'il y a des images là-dedans, pour ceux qui le verront, qui sont sans équivoque avec certains ministres et qui sont... je voudrais dire puncher parce que c'est le seul mot qui me vient, vous me pardonnerez le mot. Pourquoi Christian? Avec David, on a eu plusieurs discussions pour savoir ce qu'on voulait, et moi, j'avais dans la tête les images que j'avais vues. Je voulais rester près des images. Mégantic, c'est 1000 vies détruites, 1000 histoires. C'est une immense pièce de verre qui a éclaté et c'est très difficile à raconter. Est-ce qu'on part du point de vue des victimes, etc.? Après discussion avec David, il s'est imposé qu'on avait besoin de quelqu'un qui savait dessiner, entre autres choses, les regards, la détresse, la mort. Même si je faisais 1000 pages, je ne pourrais pas décrire le noir, le trou que Christian a fait avec une économie de moyens incroyable. Ça ne se décrit pas en mots, mais il l'a montré, par exemple. Donc, on avait besoin de ça. On avait besoin de quelqu'un qui sache dessiner les visages des responsables de façon très reconnaissable. Et aussi, il y avait deux autres critères. On avait besoin de quelqu'un qui savait évoquer les choses, mais ne pas montrer les moments douloureux, et ne pas montrer les choses douloureuses, notamment au niveau du deuxième deuil. Et pour ça, il fallait un humaniste, avant tout. Quelqu'un qui avait du vécu. C'est pour ça que j'ai longtemps regardé du côté des graffiteurs. J'ai regardé, en fait, partout dans le monde. Ça m'a pris 10 mois. Et je l'ai trouvé au Port de Tête, à la librairie à Montréal. On m'a sorti, j'ai exprimé mes besoins, on m'a sorti plusieurs albums et je revenais sans cesse à Christian. Notamment une image dans Félix où le bateau coule comme du sang. Et cette image-là, je savais que c'était celle-là. Et la première image que Christian a faite, je vais le laisser en parler, d'une des victimes, c'était... C'était évident que c'était lui. C'était seulement lui que je pouvais voir.
Et Christian, qu'est-ce que fait que de ton côté, justement, on t'arrive, j'imagine même un peu à ta place, on m'arrive avec un pitch comme ça, j'aurais tendance à dire j'embarque. mais qu'est-ce que fait justement que tu as décidé de plonger dans Mégantic?
En fait, c'est arrivé très concrètement, là, c'est arrivé au Salon du livre de l'Outaouais où j'ai plusieurs amis, puis un de mes chums justement qui arrive, il me dit « Hey, il y a une madame qui te cherche, qui veut te proposer un projet. » Mais ça, Raymond, ça arrive souvent. Mais ça arrive rarement que quelqu'un arrive avec un projet ou financé ou avec un éditeur sérieux. C'était le cas avec Anne-Marie. Elle est arrivée très, très... avec beaucoup de respect, beaucoup de... sur la pointe des pieds. Je suis en train de signer un album, justement, pour quelqu'un. Puis elle a attendu calmement. Puis là, je voyais qu'elle voulait vraiment rester. Puis là, c'est là que elle m'a dit « Ben, c'est moi qui vous cherchais. » Puis là, elle a commencé à me parler, à me montrer son essai, à me parler de Mégantic. J'ai demandé à parler d'éco-société. J'ai demandé est-ce que j'aurais pleine liberté pour déployer le récit en images, pour faire l'écriture du récit en images. Puis elle m'a dit oui, tout de suite. Elle m'a fait confiance. Puis après, elle m'a prouvé sa confiance par le procédé qu'on a utilisé, vois-tu, pour l'écriture. Au début du processus, en fait, elle est arrivée avec des doubles pages, avec des thématiques. Puis là, c'était des points de forme carrément avec des barbeaux, on peut se le dire, hein, on peut le dire. Puis on est arrivé avec des thématiques. Puis là, moi, ça me permettait de créer les images, créer la séquence d'images, écrire le récit comme ça. Puis le texte qu'on peut voir aujourd'hui, c'est le texte qu'elle a rajouté après. Mais là, elle avait déjà prévu faire, elle m'a dit à cet endroit-là, il faut laisser plus d'espace, des choses comme ça. Mais n'empêche qu'elle me laissait vraiment libre de créer le récit comme ça. Ça m'a permis vraiment de faire quelque chose de plus fluide, en fait.
En fait, j'imagine, c'est ça, on t'arrive, donc tu sais, des points de forme au départ, tu sais un peu qu'est-ce que ça va raconter, qu'est-ce que ça vise, puis après ça, c'est un peu à toi de développer un peu la page, la planche, de l'architecture visuelle, dans le fond,
Oui, tu sais, un scénariste classique va t'arriver, il va dire, case 1, le personnage arrive, sort de la voiture, je sais pas, moi, on va prendre l'exemple du Dakota du Nord, en fait. Case 1, il faut montrer un autochtone classique, traditionnel, après ça, on monte les champs avec les bisons. Elle a pas fait ça du tout, elle a juste dit la situation au Dakota du Nord, l'extraction. Du pétrole, tout ça, la pollution, le saccage des terres des autochtones là-bas, tout ça. Puis la condition aussi exécrable des travailleurs. Donc moi, à partir de là, j'ai développé les séquences d'images comme ça. Elle n'a pas eu besoin de me décrire c'était quoi, elle m'a juste donné l'impression. Puis moi, j'ai pu traduire cette impression-là en images. Aussi, pas juste par l'image, la composition, mais aussi la couleur du papier, encore une fois, qui est de plus en plus... narrative dans mon travail. Puis il faut dire qu'au début du processus, Anne-Marie, elle m'a envoyé une vidéo de Cathy Clusio. Cathy qui est morte lors de l'explosion. Ça m'a beaucoup touché parce qu'on la voit à une fête familiale dans le salon chanter une chanson d'Elvis. Puis elle a du fun, là. Elle rit, puis tout ça. Puis c'est une chanson d'Elvis dont les paroles cadrent parfaitement avec le livre. C'est « Now or Never ». Puis, écoute, tout le long, j'ai été profondément touché par cette personne-là, parce que ça a été filmé à Pâques, puis la catastrophe, c'est début juillet. Donc, puis elle, en plus, elle déménageait une semaine avant la catastrophe. Elle devait pas être là, elle, en fait. C'est tellement curieux, c'est pas un drôle de destin, c'est tellement triste, en fait, comme destin. Puis je me suis beaucoup identifié à elle parce que je voyais en elle une nièce, une voisine, une étudiante à l'UQO, une jeune dans vingtaine qui avait tout l'avenir devant elle.
Et pour situer dans le fond, parce que effectivement c'est une planche qui apporte beaucoup de gravitas, je pense en deuxième partie justement autour de cette vidéo là, parce que tu as choisi de la mettre en image. Et en termes d'organisation de la planche, ben on a vraiment en avant dans le fond donc Cathy qui dans son reproduit dans le fond des segments de vidéo sentir un peu cette joie de vivre là. Et en bas, ben, dans le fond, c'est les visages, au bout du compte, de ceux qui, on le découvre un peu au fil de ce qui est révélé dans Mégantic, sont responsables à différents degrés sur différentes décisions qu'ils ont prises, ben, de ce qui s'est passé à Mégantic au final. Et donc, c'est un peu de jouer avec ces deux dimensions-là, mais en donnant le haut de page, en donnant l'essentiel de la planche à cette joie de vivre-là qu'on vit un peu de façon douce amère, sachant ce qui est arrivé avec, à cette jeune fille-là.
Douce amère, c'est justement, je pense que c'est le bon terme, en fait, parce que tu sais, le haut, comme tu dis, tout le haut est occupé par Cathy, avec le motif du devant du train, qui est des stripes, là, des lignes blanches et vertes.
Un motif qui revient ça et là dans l'album aussi.
Oui, d'ailleurs. C'est ça, je reprends ça pour rester dans l'imaginaire, garder la locomotive en tête, garder le train toujours présent, sans le montrer nécessairement. Puis en bas, il y a tout ce sentiment-là qui est créé par Cathy, par cette chanson-là. Puis en bas, il y a tout le discours des politiques et des riches, des gens qui font des affaires, en fait, puis qui disent « Moi, en affaires, faut pas avoir de sentiments. » C'est toute l'indécence. Un, ça a le contrepoint à l'autre, puis ça crée l'indécence qu'on peut ressentir. Puis c'est ça qui est intéressant, de les mettre face à face, parce que le lecteur, lui, il voit bien là, qu'est-ce qui est là. Puis nous, on fait juste mettre en place quelque chose qui sont des faits. C'est des faits, en fait, qu'on met en place. Puis c'est ça qui crée le pamphlet dans cette bande dessinée-là. C'est pas une posture qu'on a, c'est simplement voici la vérité.
Oui, en fait, c'est des gens qu'on met face à face, des gens qui se sont jamais croisés, qui se seraient probablement jamais croisés, mais dont les uns ont eu un impact absolu, dans le fond, sur la vie des autres, au bout du compte, et qui peuvent malheureusement persister. C'est ce qu'on voit aussi en deuxième partie, un peu, puisqu'il devient choquant presque aussi. C'est difficile. Enfin, on sort d'un livre comme ça ému, mais on en sort choqué aussi de l'indécence de continuer sa vie, sachant qu'on en a ruiné d'autres, au bout du compte. Et j'imagine que c'est un peu aussi, ça rentre un peu dans la sphère de sentiments dans lequel on entraîne le lecteur dans Mégantic, à Essien, j'imagine aussi.
Ben c'est en fait, c'est tellement... je pense à... En fait, pendant que tu me poses la question, je pense à Tom Harding, qui, lui, a beaucoup de misère à vivre avec ça. Aujourd'hui, c'est très difficile. Lui, il porte son poids. C'est un homme, il se tient debout, il porte son poids. Mais les autres, ils ont tout le temps réfuté. Puis les complices de ça, en plus, c'est tellement... encore une fois, c'est indécent, mais on dirait que le mot est pas assez fort encore pour décrire la posture des ceux qui collaborent à cette négligence criminelle-là. Je veux dire, c'est inexcusable. Puis nous, notre travail, ça a été de les montrer, de les pointer du doigt. Les journalistes culturels... nous ont beaucoup suivis. Puis ça, moi, j'en reviens pas à la réponse des journalistes culturels à ce niveau-là. Mais les journalistes politiques, ils n'ont pas fait leur job jusqu'à maintenant. Personne n'a posé la question à Marc Garneau, qui est en pleine campagne électorale. Pourquoi avoir couvert tout ça? Pourquoi? Quelle théorie du complot?
Vous savez, c'est intéressant, la BD aussi. Moi, je suis une vieille militante et on a entre nous des codes, comme dans tous les milieux, et on fait des conférences de presse, on y met des communiqués et on dit, OK, alors on amène des nouveaux faits. Dans notre cas, avec Daniel Green, c'était des mesures d'échantillonnage, des choses comme ça. Ou parfois, dans certains cas, on dit, OK, on fait une opération déchirage de chemise. Les politiciens emploient cette chose-là, c'est-à-dire qu'on pousse des hauts cris et tout. Ce qui fait la beauté et la sobriété, je pense, de la BD, c'est que à cause des images de Christian, tout ce que j'avais à faire, c'est prendre des vrais faits et les apposer. J'ai pas besoin, il n'y a aucun déchirage de chemise là-dedans, il n'y a que les vrais faits, les dialogues sont tirés des dialogues existants. Par exemple, les conversations entre Tom Harding et Labrie, quand Labrie, par exemple, le contrôleur lui dit « c'est ton train qui a détruit la ville ». Tout ça est exact. Tout ce que j'avais à faire, par exemple, si on revient à la contamination au poisson, il y a une petite image, Christian a fait une image, en fait, il a fait une double planche, l'atmosphère est prenante de cette planche-là. Tout ce que j'avais à dire, c'est les extraits du ministère de l'Environnement pour dire ce qui est arrivé au poisson dans la rivière. Donc, il n'y a aucun déchirage de chemise. Et si c'est aussi fort, c'est vraiment la juxtaposition des faits et de ce que Christian en a fait. Et son pouvoir d'image a décuplé, à mon avis, a fait un véritable coup de poing qu'aucun communiqué de politicien, mais même de groupe de pression peut faire. J'ai jamais, me semble, aussi frappé fort, pour ne pas dire fait, c'est fort, sans le vouloir et en restant super sobre dans tous les mots et faits qu'avec cette BD.
Et j'imagine que ça a été servi par le fait justement où on se dit, bon, on n'a pas bâti un scénario au départ, on a laissé la place au visuel, puis après ça, dans le fond, on a amené les faits vers le visuel. J'imagine que ça a aidé un peu de créer cet effet-là.
En fait, j'ai séparé les planches qu'on avait, comme dit Christian, en thèmes, en thématiques. Alors, il y avait la thématique pétrole Dakota, il y avait la thématique coupable, il y avait la thématique il fallait, puis ça, c'est une planche qui a beaucoup de... plus de faits, mais il fallait démontrer ce que Harding avait fait, le nombre de freins, etc. Donc, chaque planche avait une thématique, j'ai découpé Mégantic jusqu'à il y a récemment, parce que l'histoire n'arrête pas, dans les chapitres. Et j'ai indiqué ce que c'était, puis j'ai beaucoup parlé, parce que je parle beaucoup. Donc, il avait beaucoup de faits, mais aussi, il a lu l'essai. Donc, il y avait des détails aussi. Je lui ai donné la documentation visuelle. Alors, il y avait, je ne sais pas si on peut appeler ça une scénarisation, mais c'était très directif pour moi. Mais en même temps, si je le brimais, ça me donnait quoi d'aller chercher Christian Quesnel? C'est ridicule, là. Et souvent, j'ai pu donner des exemples. Je vais donner un exemple qui est frappant. On en parlait avec David Murray. J'avais dit à Christian qu'il était impossible, qu'il n'était pas question qu'on montre ce que les élus de Mégantic ont fait dans le rasage du centre-ville qui est la partie qui a le plus bouleversé les gens, bizarrement. Et donc, j'ai dit, on ne va pas les montrer. Ils ont des responsabilités, c'est indéniable, ils ont fait des erreurs, mais au-delà de tout, il reste des victimes aussi. Là. Le drame est né à Wall Street, il est né au Dakota, il est né à Ottawa, il n'est pas né chez les élus de Mégantic. Néanmoins, ils ont fait des erreurs indéniables, ça, c'est sûr. Alors, je lui avais dit, mets-les dans l'ombre, mets-les de dos, mets-les comme tu veux, mais... Et il m'est arrivé avec la planche, je ne veux pas donner le punch, mais je suis tombée en bas de ma chaise. C'était tellement ça qu'il fallait faire.
Oui, en fait, parce que je me demandais justement, ça répond à vous devancer presque une des questions, parce que j'étais arrivé avec ça, puis le choix de nous amener un peu ailleurs, en termes de pas nous amener à l'intérieur de l'hôtel de ville quand les décisions sont là, mais de rester un peu à l'extérieur, autour. Je ne veux pas trop en dire, parce qu'effectivement, ça a un effet. C'est là, et j'aimerais que les gens prennent le temps de la feuilleter, la BD, ou mieux, de la lire et de l'acheter. Mais dans le fond, Christian, ça s'est imposé rapidement, dans le fond, d'amener un peu...
Ben, le fait de créer une sorte d'allégorie avec cette scène-là, moi, ça m'est apparu, là, j'ai réfléchi au problème, parce que c'était carrément un problème, parce que je voulais pas dessiner des personnes dans l'ombre, des silhouettes, des tables à l'hôtel de ville. Pour un dessinateur, c'est plate à faire. En fait. Puis je me suis trouvé une façon ludique pour moi de le faire, tout en servant la narration, tout en servant qu'est-ce qu'on voulait faire. Parce que c'est ça, Anne-Marie ne voulait pas pointer, personnaliser, en fait, ces scènes-là. Elle voulait vraiment pointer les choses qui ont pas bien été. Puis comment représenter ces choses-là? Ben, je pense que... des figures, je vends un peu le punch, mais des figures animales, en fait, viennent épouser des fois certaines croyances qu'on peut avoir. La symbolique était extrêmement importante dans mon travail. Puis là, j'ai utilisé la symbolique des animaux pour cette scène-là. Ouais.
Oui, puis un peu comme le côté symbolique, on parlait du pouvoir d'évocation. Je pense qu'il y a plein d'exemples, en fait, qu'on peut aller chercher. Mais au bout du compte, peut-être si on résume un peu de façon générale l'esprit, on se retrouve un peu, pour moi... comme dans « Vous avez détruit la beauté du monde », où on est dans une logique de suggestion plutôt que de démonstration. Dans le fond, on nous figure l'horreur, on nous laisse compléter un peu le visuel, mais on nous le suggère de façon, au bout du compte, poétique, de façon, au bout du compte, émotive, pour nous faire réagir. Puis après ça, l'esprit complète le travail en fonction de l'ambiance dans laquelle tu nous plonges.
Mais je trouve que c'est une des grandes forces de la bande dessinée, le médium, ce pouvoir-là de s'associer au lecteur pour créer l'image, en fait. Parce que comme tu le sais, le lecteur fait le lien entre les cases, puis en se servant consciencieusement de cette logique-là, on peut créer beaucoup de choses qui sont beaucoup plus puissantes, parce que l'imagination, je veux dire, quand on écoute, mettons, un radio-roman, on génère des images, puis tout ça. Bon, ben c'est un peu comme ça, la bande dessinée, elle active notre cerveau de lecteur, en fait. C'est ça, on imagine des choses, Puis le choc, l'explosion, la façon que je l'ai représenté, c'est suffisant parce que le lecteur est capable vraiment lui-même de se construire son image d'horreur lui-même.
Hein, oui, puis ça. Même à la limite, j'aurais envie de te dire que de la façon dont tu as représenté l'explosion là-dedans, et ça frappe encore plus peut-être que si on avait représenté, je veux dire, les images de toute façon, le feu et le reste, on les a vus à la télé, on peut les trouver. Mais le coup de poing que ça donne avec un choix, entre guillemets, tout simple, en fait, du moins qui semble tout simple, pour le décrire un peu, je pense qu'on va donner un peu de détails pour les auditeurs. dans le fond, tu y vas avec cinq images, cinq cases, dans le fond, cinq personnes qui sont dans leur vie, dans le fond, quatre ou cinq, en fait, un certain nombre. Et ensuite, bon, on les retrouve simplement noircis, dans le fond, donc les cinq cases, sur une page blanche et ensuite sur une case rouge, sur une planche rouge avec l'explosion. C'est un motif aussi qui va revenir un peu plus tard dans l'album.
Oui, ben, en fait, ça, c'est quelque chose que, encore une fois, qu'il y a juste la bande dessinée qui peut faire, parce que la bande dessinée, c'est un système de pages à tourner. Bon, le roman aussi, mais le roman, il y a quelque chose qui n'est pas existant, c'est le surgissement. En bande dessinée, le surgissement, bon, c'est quand on dévoile, quand on tourne la page, il y a une nouvelle chose qui apparaît, qui surgit. Donc, je me suis servi de ça justement pour créer cet effet-là. Puis c'est un effet de séquence sur trois pages, en fait. Mais après ça, je le fais revenir un peu comme une expérience post-traumatique, là, un choc post-traumatique. C'est vraiment faire travailler le médium, le faire servir un scénario, mais comme seule la bande dessinée est capable de faire. C'est vraiment ça. Puis c'est mes recherches à la maîtrise puis au doctorat qui m'ont amené à pousser ces concepts-là.
Oui, et je voudrais démontrer avec un autre exemple la puissance d'évocation de Christian, la page couverture. Alors tout de suite, l'idée lui est venue de faire une adaptation de la fameuse toile de Colville avec le cheval sur la voie ferrée. Et pour le passant devant une vitrine et qui voit la couverture, ça dit tout de suite deux choses. Il n'y a pas personne qui ne sait pas ce qui va arriver, l'image que ça va donner réelle dans la réalité quand le train va frapper un chevreuil. On comprend très, très bien. Donc, la violence brutale, ahurissante est toute là, on l'a dans la tête. En même temps, ce qu'il dit au lecteur, c'est « Pensez pas que vous allez voir des cadavres, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de cadavres dans ce livre, c'est autre chose. » Et juste là, déjà là, il y a cette dualité-là et c'est cette espèce de puissance où il arrive à faire plusieurs significations avec une seule mini-chose. Christian m'a dit qu'il était considéré ou il faisait des choses assez d'avant-garde. Et je pense que, après coup, je me suis rendu compte et qu'il avait intégré cet avant-gardisme-là, qui n'était pas mainstream, là, dans la BD de Mégantic. Et probablement, c'est ça qui m'a plu, quelque part. On ne pouvait pas faire quelque chose d'ordinaire, il fallait aller chercher ailleurs, et beaucoup dans le minimalisme, mais ailleurs, et c'est ce qui fait qu'il casse toutes les cases de la tradition BD en ce qui me concerne. Je ne suis pas une super connaissante, mais en ce qui me concerne, il casse toutes les normes, il casse toutes les cases, et c'est ça que instinctivement, je suis allée chercher.
Quand je parlais à Anne-Marie d'avant-garde, en fait, c'est que je puise chez certains avant-gardistes comme Richard McGuire, Marc-Antoine Mathieu, des gens comme ça, ou Fred même, des stratégies qu'ils ont utilisées au niveau expérimental, on peut le dire, mais là, je l'emmène dans un récit qui est accessible, qui est quand même grand public, on peut le dire. Fait que c'est vraiment d'utiliser ces outils-là, encore une fois, pour faire parler la narration, tout simplement.
Oui, ben en fait la force de Mégantic, c'est que dans le fond, à la limite, on a un peu deux niveaux auxquels on peut la lire. Dans le fond, on peut simplement la lire puis la ressentir. Puis, je veux dire, tout ce qu'on dit sur les concepts, les manières d'amener, je veux dire, on n'a pas besoin de comprendre le mécanisme pour le ressentir. Mais par contre, il y a un plaisir après à voir justement de quelle manière, dans les choix qui ont été faits sur le plan visuel, sur le plan narratif, sur la jonction des deux, qui fait qu'après ça, à deuxième, troisième regard et le reste, ben on peut s'attarder à une planche, on peut s'attarder à plein de choses là-dedans, parce que cette réflexion-là, elle est là, elle est sous-jacente, et c'est un plaisir un peu de la décoder aussi, d'une certaine façon.
C'est exactement ça. On le voit pas, et même moi, qui est encore là pas une spécialiste, je vois pas les spécialités ou les choses avant-gardistes dans ça. Parce que quand je la lis, ou quand j'espère quand les autres la liront, ce qui était essentiel, c'est de rester le plus simple, direct. Pour honorer vraiment les gens de Mégantic, il faut que leur histoire passe en premier. Dans l'essai comme dans la BD, il n'était pas question que j'invente un appareil compliqué de scénarisation. Puis je voulais pas faire artistique. Je voulais juste raconter l'histoire, juste raconter comment et pourquoi c'est arrivé. Et Christian a su respecter ça. Et je lui rends hommage.
En fait, j'aurais presque envie, si j'avais à décrire cette BD-là en deux mots, j'aurais tendance à parler de pamphlet poétique. Un peu parce que le côté, on a une opinion, elle est claire, elle est émise, elle est amenée, elle est démontrée, mais dans le fond, on a une logique de démonstration, mais la poésie dans l'évocation de l'humain qui est là-dedans aussi, qui est omniprésent dans cet album-là. Et je pense à Marie Saint-Cerny, tu mets un peu le doigt sur un élément, j'imagine, on doit sentir une certaine pression. Je veux dire, on va à Mégantic, on a visité les lieux, vous avez rencontré des gens, des parents, des proches qui ont survécu, qui ont traversé ces épreuves-là. On doit sentir une responsabilité quand on aborde un sujet comme ça envers les défunts autant qu'envers les survivants.
En fait, Cathy m'a servi, m'a guidé tout le long du projet. Comme je parlais de cette vidéo-là qui m'a marqué, elle m'a marqué dans le sens de voici la ligne que tu te fixes, voici le personnage qui va te permettre de dire si je dessine ça, est-ce que c'est correct ou c'est pas correct? Fait que c'est vraiment la ligne directrice. Puis je pense que les Méganticois, ils sont restés vraiment au centre là, de nos préoccupations. Chaque image, chaque bout de texte a été pensé en fonction de eux. Même les communications. Je veux dire, tout a été pensé en fonction d'eux. Bon, pour moi, faire un livre, c'est trois étapes. Il y a la création qu'on a fait, Anne-Marie et moi, puis on a pensé d'un bout à l'autre aux Méganticois. Il y a l'éditeur qui a pensé aussi aux Méganticois, puis le dossier à la fin, c'est pas un hasard s'il est là aussi. On voulait vraiment humaniser puis rendre dans le concret où se situe la bande dessinée. Mais même les communications ont été faites en pensant aux Méganticois, parce que qui a eu l'exclusivité sur la sortie de la BD? Où a été le premier lancement de la bande dessinée? Ça a été à Mégantic, en fait, pour être auprès d'eux.
Ça, j'imagine qu'on veut pas raviver la douleur. On veut pas raviver le drame. On veut simplement amener à une prise de conscience, peut-être, autour de ce drame-là.
Oui, et là, j'ai des commentaires à faire là-dessus. Parce que vous avez employé le mot poésie et raviver la douleur, c'est mes deux choses importantes. En ce qui me concerne, le mot poésie, je le refuse. Et je le refuse assez énergiquement parce que... Et là, je vais dire ce que j'ai à dire. Il y aura une série de fictions que je ne veux pas commenter puisque je n'en ai rien vu. Mais les gens qui sont derrière cette série de fictions me disent, et à certains, j'ai parlé directement, je vais parler de tel événement, de telle personne, et ce sera très poétique. Je refuse totalement. Il n'y a aucune poésie dans l'histoire des Mégantiques. C'est d'une tragédie totale, et l'histoire à laquelle on faisait allusion, c'est si tragique que je ne l'ai même pas mentionné dans l'essai, tellement j'aurais fait du voyeurisme. Alors, il faut trouver un autre mot que poésie pour moi, parce que je pense que c'est l'excuse qu'on va se donner. Et si je peux me permettre juste une seconde, Christian, qui veut le micro, raviver la douleur... Le point de vue qu'on avait pour faire ça, pour toucher à une histoire comme ça, ça prend un solide code d'honneur. Puis quand je dis code d'honneur, là, je parle pas d'un code d'éthique ridicule là, en papier. Là. Je parle d'un code d'honneur à la samouraï. Et la première chose en haut de la ligne, c'est ne pas raviver la douleur. Dans ce cas-ci, tous les gens, quand on est allé à Mégantic, se sont reconnus. Ils étaient heureux de se voir.
Pour attraper la balle au bon, je pense que le mot onirisme serait adéquat pour parler de cette empreinte.
Du pouvoir d'évocation qui est amené un peu...
Parce que Anne-Marie, elle a parlé de Félix tantôt. Oui, il y a de l'onirisme dans Félix, mais il y en a aussi dans Ludwig. Puis je pense que c'est surtout Ludwig qu'elle a vu en premier. Puis vois-tu, bizarrement, vous avez détruit la beauté du monde. Et Mégantic, j'ai été approché par le biais de ce que j'avais créé dans Ludwig, puis par le biais de l'onirisme qui était présent dans le livre. Je pense que c'est ça qu'elle voulait, qu'elle voulait aller chercher, puis justement pour servir le pouvoir d'évocation, mais sans tomber dans la poésie. Ouais.
Alors parlons plutôt de pamphlets oniriques, dans ce cas-ci. Mais effectivement, la distinction est importante, et le poids des mots l'est aussi, puis ça revient un peu à ce qu'on discutait au bout du compte, c'est de bien choisir ce qu'on dit, ce qu'on montre, ce qu'on présente et le reste, parce qu'il y a un poids, parce qu'il y a des gens, parce qu'on est redevable de ces gens-là et parce qu'on souhaite être redevable de ces gens-là aussi, parce que c'est sous une posture de votre côté. Je veux dire, si vous vous consacrez depuis 8 ans à la cause de Mégantic, entre autres éléments, c'est parce que vous y croyez, parce que vous avez envie de, parce que vous vous sentez redevable de ces gens-là, de les accompagner, de les aider. Puis comme j'imagine aussi nous, les lecteurs, on partage un peu un des bouts de cette colère-là qui doit les animer quand on termine un peu et de l'impuissance aussi qui en ressort. Mais malgré notre espoir, dans le fond, qui peut-être eux aussi étaient sujets à débat entre vous, ça, je ne sais pas. Si...
Pas du tout, mais vous mentionnez l'espoir. Mais avant d'y revenir, parce que c'est une image pour moi qui est fondamentale, la dernière planche. Mais avant ça, effectivement, on est redevable dans le sens où c'est une... Mégantic est une tragédie inouïe. C'est une injustice totale. Ces gens-là sont incapables de faire leur deuil parce qu'on leur refuse obstinément la vérité. Et on ne peut pas faire son deuil sans avoir la vérité. Mais ce qui était fondamental, et oui, ils ont pu leur destin en main, et ça n'arrête pas. Encore en septembre, s'ouvre le recours collectif contre le CP, le 21 septembre, des citoyens contre le CP, mené par un avocat de Mégantic qui a tout perdu, il était voisin du Musicafé, tout son bureau et tout, contre le CP qui ont engagé les plus gros bureaux d'avocats d'Amérique du Nord pour se défendre. Alors, vous voyez un peu, c'est même plus David, là, c'est la fourmi contre Goliath. Mais malgré tout, ça va aller de l'avant. Et c'est pas, donc pas terminé, il y a encore la voie de contournement, tout ça. C'est une injustice aussi qui représente toutes les injustices. Je veux dire, Mégantic s'inscrit dans des grandes tragédies semblables, comme Bhopal, on en cite quelques-unes dans le livre. C'est à l'instar de ces grandes tragédies-là, où il n'y a jamais eu de justice, il n'y a pas vraiment eu de vérité, etc. Et ces gens-là n'ont plus leur destin en main. Ils sont constamment poussés par les vents des prédateurs d'un bar ou des autorités d'un bar ou de l'autre. Ils n'ont plus leur destin en main. Et s'il y avait une chose sur laquelle il fallait absolument terminer, mais on était d'accord là-dessus, c'était de leur laisser l'espoir, d'où la dernière double planche. Est-ce que tu veux que j'en parle? Juste vous donner le briefing. Je vais donner le briefing que je t'ai donné. Et tu vas dire comment il l'a traduit. Parce que c'est quand même significatif au niveau transformation qu'il a faite. Pour moi, ça s'inscrivait donc dans les grandes tragédies. Donc, on commence avec la Syrie, les ruines de maintenant d'Afghanistan, pourrait-on dire. Et on finit aussi sur une image qui évoque la guerre et les migrants, etc. J'ai envoyé à Christian, j'ai dit exactement, le personnage qui est vivant et souriant est un jeune qui a maintenant 16 ans, qui a écrit un poème que j'ai mis dans la BD. Et il avait 9 ans à l'époque, il a 16 ans aujourd'hui. Donc, lui est existant, il est là. Mais j'ai envoyé et j'ai donné un briefing de mort à Christian en lui envoyant des tonnes d'images terrible, on va se le dire. Mais en disant, je veux que Samuel, parce qu'il s'appelle Samuel, émerge de tout ça. Et c'est pas ça qu'il a fait. Ce qu'il a fait m'a jeté à terre. C'est un des endroits où j'ai pleuré. Mais c'était tellement ça qu'il fallait faire. Je vais lui laisser la décrire.
Non, vas-y.
En fait, c'est qu'il a... En fait, je lui ai envoyé des tonnes d'images d'enfants morts dans les guerres, déchiquetés, de tout ce que vous voulez, affamés. Mais il a pris un symbole de le petit Alan Kurdi, qu'on connaît tous. Samuel le tient dans ses bras, mais il est vivant, le petit Kurdi. Et ça, quand j'ai vu ça, et même j'en parle aujourd'hui, c'était tellement ça que je voulais dire. C'était tellement... Ça me donne du courage de continuer, alors voilà.
Moi, dessiner des enfants morts, ça me disait vraiment pas. Puis je voulais justement virer ça du bon côté des choses. peut-être que justement, si on agissait, je dis « on », mais si certains agissaient de façon responsable puis humaine, en fait, avec leur cœur, l'intelligence du cœur, peut-être que ce petit gars-là serait vivant, puis peut-être que les gens de Mégantic, les 47 morts, seraient pas morts, en fait. Donc,
Oui, puis c'est intéressant de faire des ponts en différentes catastrophes ou tragédies évitables. On a parlé de Bhopal, je pense que la situation des migrants, c'en est d'autres, où il y a des choix de quelqu'un. Dans le fond, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, décide de quelque chose qui, éventuellement, va amener à des conséquences qui sont extrêmement lourdes, puis qui sont extrêmement évitables, au bout du compte aussi.
C'est un effet domino. C'est une réaction en chaîne, en fait. S'il y a une conséquence, il faut juste... Il y a une conséquence directe entre la décision de la personne en question et la conséquence à l'autre bout. Anne-Marie, elle a juste reconstitué tout le parcours, le sentier qui mène à cette conséquence-là.
Puis en termes de structure, on en a peu parlé, mais dans le fond, la première partie est vraiment consacrée à l'avant. Dans le fond, tout ce qui a mené, tout ce qui peut expliquer qu'on s'est retrouvé avec ces 72 wagons-là, on le disait en début d'entrevue avec un homme seul qui met 7% des freins parce que c'est les règles et le reste. Donc, pourquoi on en est arrivé là? Mais en même temps, le défi là-dedans, c'est d'un côté, le lecteur sait ce qui va arriver. Dans le fond, donc il y a un sentiment d'inéluctable, une tristesse qui s'installe assez rapidement parce qu'on sait où ça va aboutir. Mais en même temps, dans une structure, on va créer un certain suspense, en fait, d'une certaine façon, en amenant ou une certaine narration croisée, en amenant entre Mégantic, entre le train, Tom Harding et le reste, entre le Dakota. Donc, ça devient quelque chose quand même d'assez rythmé, mais de très... Je voyais un peu un côté métronome. Un peu qui s'installait là-dedans.
Il y a une accélération qui se crée aussi par la façon qu'on raconte, parce qu'au début, on installe les choses, mais n'empêche, on installe aussi le choc. Dès le départ, je pense que c'est la troisième planche ou quelque chose comme ça, ou la quatrième planche, il y a une image qui est complètement rouge. Il y a justement cette appréhension-là, vu que tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai joué avec ça. J'ai utilisé cet effet-là, le rouge, comme j'ai décidé que ça devenait narratif. Puis dans la deuxième partie, bon, il y a une construction. Il y a une construction vers le choc, justement, vers l'explosion. Puis bon, après ça, il y a une deuxième partie qui s'installe. Mais dans la deuxième partie, j'ai réutilisé le rouge, mais comme symbole post-traumatique pour revenir sur le choc. Parce que tout est là aussi. C'est quand même un événement important. C'est à partir de là que tout s'est passé aussi par la suite. Là.
Exact. Puis le choc arrive à peu près au milieu de l'album. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve après ça dans un autre cadre narratif. Dans le fond, on n'est plus dans un crescendo vers la tragédie. Mais on est un peu plus dans la marche des procédures, dans une temporalité qui est passée de quelques jours, quelques heures à plusieurs mois, voire même plusieurs années, puisque ça nous amène pratiquement aujourd'hui, puisque encore aujourd'hui, c'est pas solutionné. Donc j'imagine qu'on se retrouve un peu avec deux rythmiques, qu'on met un peu deux approches.
En fait, je vais passer le micro tout de suite après à Anne-Marie, mais je pense que en fait le premier choc, le premier deuil, je veux dire, il y a de la tristesse beaucoup dedans. Qui s'installe parce qu'on sait qu'est-ce qui arrive, on voit les personnes évoluer, on sait qu'est-ce qui leur arrive. Le deuxième deuil, il y a une colère qui s'installe. La tristesse est toujours là, mais la colère elle se saisit. En fait, c'est comme si le ciment, il venait dur, puis c'est vraiment... Parce que là, on voit tout le côté évitable. On voit tout le côté... pas l'erreur humaine, mais les choix. Les choix que... Mon Dieu, je pense à... Je fais une parenthèse avec Marc Garneau. Je veux pas m'acharner sur le bonhomme, mais pour moi, c'était une idole de jeunesse, en fait. Il est allé dans l'espace. C'est le premier qui est allé... premier Canadien, premier Québécois dans l'espace. Puis, voir ce qu'il est devenu, surtout avec son... Il y a quand même un vécu. Je ne veux pas rentrer dans le personnel, mais il y a un vécu personnel difficile. Puis j'imagine, avec qu'est-ce qui est arrivé, avec son drame familial, je comprends pas qu'ils comprennent pas qu'on ait besoin de réponses quand on perd quelqu'un dans sa vie. Il me semble que s'il y en a un qui serait bien placé pour comprendre, ce serait lui. Mais je sais pas, moi, comprendre pourquoi quelqu'un est mort d'un de nos proches, c'est pas une théorie du complot, c'est juste vouloir comprendre, pouvoir faire le deuil, tout simplement.
Anne-Marie?
C'est vraiment très bien ce que tu dis, Christian. Et parfois, à cause de Christian, je comprends des choses. Moi, je suis dans le drame. Hein? J'étais là tout le temps, je les connais. J'ai pas beaucoup de distance et ça m'a causé des problèmes pour faire la narration. Parce que d'abord, j'avais trop de personnages narrateurs. Je savais que j'avais un problème. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'est parce que je voulais pas les abandonner en rade. Je voulais pas en privilégier quelques-uns. J'avais un sentiment de culpabilité. Donc, Christian, ce qu'il vient de dire m'éclaire beaucoup sur moi-même. Je voulais simplement dire quelque chose peut-être un peu stupide, mais que dans la BD, ce qui est fort aussi, c'est que quand on a... Tout le monde sait, ici au Québec, en tout cas d'un certain âge, ce qui est arrivé à Mégantic. Donc, on appréhende le pic, si on veut, avec la collision de train et bon, tout ça. Sauf que le pic n'est pas là. Le pic recommence... Il y a un autre pic et c'est ça que Christian a aidé à faire et qu'on a fait avec la structure. C'est que si vous pensez que ça finit ici, là, c'est pas le cas. Ça continue et ça empire. Et cette partie-là, vous ne la connaissez pas. Mm-hmm. Mais voilà ce qui arrive. Et ça, c'était toute la partie, dès qu'il y a un choc dans une communauté, quel qu'il soit. Et parfois, c'est même juste l'implantation d'un parc éolien ou d'une usine polluante ou n'importe quoi. Là, mais attendez, parce que ce n'est pas fini, parce que voici les conséquences de ce que ça crée sur les gens. Et c'est pas rien parce que même la santé publique, qui ont fait des études, ont déterminé que le rasage, la démolition des maisons par bulldozer, qui est en passant une arme de guerre, a causé plus de bouleversements puis de traumatismes, d'une certaine façon, que le choc lui-même. Les gens ont été sur l'adrénaline au premier choc, au deuxième choc. Ils ont été faites parce que... Et donc, Christian...
Déjà à terre en plus quand
exactement. Et Christian, dans la structure, on arrive là. Ce qui est assez rare comme structure narrative, d'attendre le super choc, mais non, il est plus loin. Et Christian, évidemment, a su rendre ça avec, encore là, une économie de moyens, mais avec les couleurs, l'atmosphère, les personnages.
Oui, en fait, puis ça c'est un peu la capacité, j'ai l'impression, le côté vulgarisation, le côté synthétique aussi que permet la bande dessinée, parce que c'est extrêmement complexe ce qui se passe au bout du compte, les jeux politiques, les jeux juridiques et le reste suite à la tragédie. Mais en même temps, faut le rendre palpable, compréhensible, puis on réussit à le faire là-dedans, où dans le fond, il y a la narration, il y a les éléments qu'on met de l'avant, et au bout du compte, dans le fond, nous, on suit un peu cette suite d'événements-là, qui, comme Anne-Marie vient de le dire, qui n'arrête pas, qui continue, puis qu'on garde encore ce rythme-là, même si le choc, lui, est techniquement passé. Tu sais.
C'est assez particulier, l'expérience de Mégantic, puis vous avez détruit la beauté du monde, parce que c'est des invitations que j'ai reçues. Ça faisait pas partie de mes projets que je m'étais fixé, puis tout ça. Puis les personnes avec qui j'ai travaillé dans les deux livres m'ont beaucoup amené à conscientiser par rapport à l'utilisation justement du médium pour servir un commentaire, mais un commentaire, un fait, mais accompagné de sentiments aussi. C'est de prendre ces deux choses-là, puis de ne pas les départager. Puis de rendre le fait, mais aussi de rendre le sentiment. Je pense que c'est ce qui distinguait aussi, peut-être, tu sais, l'essai. L'essai, c'était des faits, vraiment. Puis t'es resté sobre, puis t'as vraiment, Anne-Marie, vraiment beaucoup été respectueuse, puis t'as pas voulu aller du côté impact humain, là, tout de suite, là, tu sais. Puis la bande dessinée, on a pu emmener ça vraiment. Puis justement, le fait de pouvoir déployer le récit comme ça m'a permis d'emmener cette facture-là qui est sensible, en fait. Puis c'est ma personnalité aussi. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible. Puis de travailler là-dessus, ben je me transpose quelque part dans les personnages, entre guillemets, que je mets sur papier.
Oui, puis l'humain a fait apparaître dès les premières pages aussi du récit parce que vous avez choisi... J'allais dire peut-être un peu façon cœur grec, dans la mesure où on les retrouve aussi sporadiquement dans l'album en train de commenter ce qui se passe, mais c'est une grand-mère et sa petite-fille qui ont été emportées dans la tragédie puis qui essaient de faire sens du pourquoi, dans le fond, ils sont partis, au bout du compte.
J'aime bien l'analogie cœur grec. J'aime beaucoup ça. Et oui, il y a un peu de ça, ces personnages-là qui reviennent de façon lancinante, qui s'adressent, non pas au lecteur, mais qui s'adressent aux responsables. Et oui, une analogie à faire que je pousserai dans le prochain projet.
Alors, de tout ça, en fait, on rappelle, la BD s'appelle Mégantic, un train dans la nuit. C'est d'Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel. Une BD, en fait, je pense qu'on en a parlé au fil de l'émission. Je pense qu'on comprend bien que c'est une BD qui est à lire, qui est à découvrir, qu'on vous encourage fortement à aller découvrir. Enfin, on a parlé, je pense, d'une panoplie d'émotions. Et je pense que c'est un peu... j'imagine que c'est un peu haïtien aussi de nous amener autant dans la colère, dans la tristesse, dans l'incrédulité peut-être un peu, mais c'est clairement pas un album qui va vous laisser de glace, disons-le comme ça, bien au contraire. Anne-Marie Saint-Cerny, Christian Quesnel, merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est très bien, très agréable d'être avec vous.
Avant de se laisser, on va prendre quelques instants pour jaser bande dessinée et peut-être quelques commentaires BD. On va prendre l'habitude de le faire un peu plus régulièrement parce que les titres s'accumulent évidemment sur mon bureau, dans ma chambre et un peu partout dans ma maison. Alors, on va en parler de quelques-uns d'entre eux à tout le moins, des titres que j'ai envie d'apporter à votre attention pour diverses raisons. Et certains titres même que j'ai littéralement échappé au fil de l'année. Je pense entre autres à ce 3 heures de Maya Neyastani, donc qui est du côté de ça et là. 3 heures, donc une bande dessinée qui met en exergue certaines problématiques sociales et culturelles, si on peut dire, certaines problématiques associées au racisme, on pourrait dire aussi. Donc, qui sont vraiment mis de l'avant dans un cas qui, au bout du compte, est tout simple. Ça se passe le 14 septembre 2017. Donc, Maya Neyastani, c'est un dessinateur d'origine iranienne. C'est un réfugié politique à Paris et il doit prendre un avion. Il est invité par le Festival de Montréal, le Festival BD, pour aller présenter donc un ouvrage qui s'appelle « L'araignée de Machad ». Mais évidemment, depuis qu'il a quitté l'Iran, la dynamique de voyage n'est pas nécessairement facile. Et bien qu'on en parle comme ça, on vous le dit à la radio et vous dites, oui, effectivement, ça ne doit pas être évident. Mais je pense que quand on n'est pas dans cette situation précise, ça devient difficile d'en prendre toute la teneur. Et toute cette teneur, elle est là dans justement cette bande dessinée, donc dans 3 heures. Où essentiellement, Neyastani reste bloqué à l'aéroport d'Orly. Il a, entre guillemets, un problème avec son passeport. Et donc, lui utilise cette excuse-là et cette opportunité-là, dans le fond, qui l'a amené à ne pas aller à Montréal, d'ailleurs, incidemment. Là, on va vendre le punch, mais bon. Et donc, pour mettre en exergue un peu... les enjeux associés à son statut de réfugié politique, les éléments qui l'ont mené vers ça également, donc le départ, le voyage et le reste. Donc, ça devient une grande opportunité d'introspection. Et donc, il décide de prendre une expérience qui doit être ô combien frustrante parce qu'au bout du compte, il n'y avait aucune raison concrète de lui interdire de voyager. Et il le transforme justement dans un ouvrage assez riche qui nous permet de s'immerger peut-être un peu dans son état d'esprit, dans son expérience, dans son parcours et dans sa frustration et dans sa tristesse de voir, de vivre, de subir cette situation-là. C'est dessiné, ça reste efficace. Ça aurait pu être un coup d'épée dans l'eau dans la mesure où on parle quand même d'un type qui est bloqué dans un aéroport pendant 3 heures. Mais donc, Neyastani, par le rythme, par la narration, par les informations qu'il nous amène, par son dessin, donc nous arrive à faire un récit qui est clair, qui est quand même rythmé, qui est agréable à lire au bout du compte, qui nous permet, dans le fond, d'appréhender cette réalité-là ou ce pan de la réalité. Donc, dans le fond, en même temps, il y a différentes introspections qui sont faites aussi au fil du récit. Il va réfléchir sur, entre autres, son choix d'être dessinateur politique, les choix de l'engagement et le reste. Donc, il y a une belle réflexion et je pense que si on a envie de plonger un peu dans cette réflexion-là, l'ouvrage est intéressant en ce sens. Évidemment, au-delà des enjeux thématiques, ça reste quand même une approche plus classique, mais la thématique est riche et pertinente et nous permet de, je le redis, de comprendre une autre réalité, d'appréhender une autre réalité, nous qui sommes extérieurs peut-être à ça, pour ceux qui ont vécu des événements similaires, mais il y aura assurément, dans le fond, je pense, une compréhension croisée qui se fera. Mais bref, c'est un ouvrage que j'avais envie d'apporter à vos oreilles. Donc, 3 heures de Mana Nayastani, c'est chez Ça et Là. Et dans le registre un peu d'informations, si on reste un peu dans des thématiques plus culturelles et sociales, je mentionne aussi au passage un ouvrage que j'ai lu un peu plus tôt cette année qui s'appelle « Nous étions les ennemis ». C'est de Georges Takei et Harmony Becker. Donc, c'est chez Futuropolis en version française. Donc, Georges Takei, qui est un acteur connu, qui est devenu aussi impliqué un peu plus avant dans différentes causes sociales, entre autres avec donc la cause LGBTQ+, et entre autres avec également ses origines nippo-américaines. Et c'est ces origines-là qui sont explorées dans « Nous étions les ennemis ». Parce que, dans le fond, il y a des réalités qui sont peut-être moins connues associées à la guerre ou moins connues à grande échelle. Mais aux États-Unis, il y avait des camps de concentration. Ces camps de concentration-là ont été mis en place à la suite de l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Et on parle de 120 000 Américains d'origine japonaise qui ont été emprisonnés dans des camps par le gouvernement, qui ont été dépouillés de leurs avoirs, qui ont été sortis de leur maison. Ils avaient juste le droit de partir avec quelques valises, quelques objets, qui ont essentiellement tout perdu. Donc, le gouvernement leur a tout volé, prétextant qu'ils pouvaient être des espions, que par leur origine, par leur sang, par leurs racines, eh bien, ils étaient de facto des ennemis de l'État ou n'avaient le potentiel d'en être, et donc on ne pouvait pas leur faire confiance. Et donc, on les a mis dans des camps. Et Georges Takei et sa famille étaient dans l'un de ces camps, même dans plusieurs de ces camps, puisqu'on le voit au fil de l'album, ils ne sont pas restés au même endroit pendant toute la période de la guerre. Et on voit donc ce qui s'est passé à travers les yeux d'un enfant de 5 ans, à travers l'expérience qu'il a vécue et la lecture qu'il en faisait à l'époque, mais aussi à travers le regard de l'homme d'âge mûr qu'il est devenu et qui est revenu sur ces événements-là avec ses parents, avec sa famille, avec ses proches, et qui s'est aussi documenté plus avant sur ces événements-là pour essayer de comprendre pourquoi on lui avait imposé ça, pourquoi on lui avait infligé ça. Et c'est un album un peu à deux niveaux parce que, dans le premier niveau, c'est vraiment l'information brute. Et c'est un peu comme on se disait dans 3 heures. Pour moi, c'est de l'information qui est précieuse et la bande dessinée est bonne et apte à nous plonger dans ce type d'information-là, dans ce type de contexte-là. Donc, on suit dans les camps, on partage les éléments de la vie, du quotidien de ces camps-là. On partage la frustration, la crainte, la détresse, les peurs, les pleurs, tout ce qu'ils ont vécu, des choix déchirants qu'ils ont eu à faire. Donc, on suit ces éléments-là et ça, c'est vraiment fascinant. Mais évidemment, en parallèle, c'est certain qu'en termes de mise en page, en termes d'approche, en termes de mise en scène de tout ça, ça reste quand même relativement classique. Donc, c'est pas un documentaire qui s'amuse à revoir la forme. On est dans une approche donc classique. C'est clair, c'est bien dessiné, c'est efficace, mais on n'est pas dans une expérience visuelle, si on peut dire. On va faire des allers-retours d'un point de vue narratif avec les camps, avec différentes réflexions que nous partage Takei, avec une conférence TED ou TEDx qu'il avait offert autour de cette thématique-là et de son expérience là-dessus. Donc, ça nous fournit un peu le fil d'Ariane, donc vraiment l'expérience de cette personne connue-là qui a vécu ces événements-là très jeunes, et à travers, justement, le travail d'Harmony Becker qui vient donc structurer un peu le documentaire, l'organiser, le mettre en scène. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous avez envie de profiter d'une invitation que vous donne la BD, de vous renseigner sur ce sujet-là, je pense que c'est une intéressante première forêt. C'est le genre d'ouvrage qui, pour moi, on le lit, on apprend, on découvre quelque chose, dans certains cas, où on approfondit quelque chose qu'on savait, mais qu'on ne s'était pas encore donné le luxe d'approfondir. Mais en parallèle, c'est certain que ça ouvre la porte aussi à des lectures supplémentaires pour creuser un peu plus avant par la suite. Et donc, un ouvrage intéressant Pour ceux qui ont envie de l'explorer, ça s'appelle « Nous étions les ennemis ». C'est Georges Takei et Harmonie Becker et c'est chez Futuropolis. On fait un saut de style, mais tiens, on va rester un peu dans un côté documentaire. Avec Yo-Yo Lalala de Svian. Ça, c'est arrivé du côté des éditions Pow Pow un peu plus tôt cette année. On est un peu en mode rattrapage avec les commentaires BD ce mois, cette semaine à tout le moins. Alors, Svian, en fait, ça fait quand même bon, quelques années qu'on en entend un peu moins parler dans la sphère publique, moins peut-être de livres édités, en fait, du moins qu'on a vu passer chez l'ensemble des libraires. C'est parce que, de son côté, elle mène un projet, elle est très active d'un point de vue création. Elle fait un magazine qui s'appelle La Jungle. Donc, ça fait déjà quelques années qu'elle est là-dedans. C'est essentiellement l'idée d'avoir une production qui est limitée, qui est entièrement libre, côté structure, côté tonalité, côté sujet, et qui est offert à portée limitée. Donc, on n'est pas dans des milliers d'exemplaires, mais plutôt dans quelques centaines, 250 exemplaires peut-être, pièces, avec donc une logique d'auto-édition, quelques librairies qui sont dépositaires de ces récits-là, qui peuvent aussi être trouvés sur la boutique en ligne de l'autrice. Et des bandes dessinées qui, pour l'instant, en fait, sont annoncés comme n'allant pas être réédités. Donc, c'est vraiment des objets uniques à portée limitée. Donc, un autre mode de création. Et je pense qu'on peut très bien comprendre l'intérêt de s'offrir la possibilité de créer dans un contexte comme celui-là. Qu'est-ce que ça peut représenter pour une autrice? Et pour le 7e tome de La Jungle, c'est le premier à se retrouver à portée peut-être un peu plus large, puisque c'est le premier à être édité chez un éditeur reconnu hors de l'auto-édition. Donc ça se retrouve chez Pow Pow. Et Yo-Yo Lalala, donc c'est, je le rappelle, le 7e tome de cette série. On parle de 1000 exemplaires, donc porté un peu plus large, mais à quelque part dans les pages dans l'album, c'est indiqué aussi que ça ne sera pas réimprimé. Alors on reste quand même dans l'esprit général de cette démarche, de cette approche que l'autrice a choisi de s'offrir. Et pour Yo-Yo et Lalala, ben, on se retrouve dans une structure où on a un récit principal qu'on va suivre tout au fil de l'album, mais l'album elle, se veut aussi être un magazine de bande dessinée. Donc, ce qui fait qu'à travers ce récit principal-là, eh ben, on a différentes courtes histoires qui vont complètement ailleurs, qui n'ont pas de lien avec le récit principal, qui peuvent représenter une rupture de ton, une rupture de style, et c'est souhaité et c'est voulu. Alors, dans ces récits-là, ben, on va vers des trucs humoristiques, vers des trucs plus légers. On s'amuse un peu avec le ton. Par exemple, il y a quelques planches fort sympathiques sur, entre guillemets, la ville d'après. On pourrait imaginer un peu un lointain après COVID, mais avec des tendances un brin absurdes aussi. C'est drôle, ça fait sourire, c'est intéressant. Bref, il y a ces éléments-là. Et au travers de ça, ben, le fil d'Ariane principal, c'est disons l'adaptation BD d'un journal de bord que Svian tenait quand elle était jeune, dans le contexte d'un premier emploi qu'elle avait eu alors qu'elle était entre le cégep et l'université, si je ne me trompe pas, ou en début d'université, où elle avait été appelée à aller travailler comme éducatrice, comme accompagnante dans des camps pour adultes autistes. Pour des adultes qui sont sur le spectre de l'autisme. Et donc, elle nous partage cette expérience-là. C'est extrêmement intéressant aussi parce que, justement, on est vraiment en immersion dans la logique, dans la dynamique, dans le quotidien de ces camps de vacances-là, voir quel genre d'activité, voir quel genre de gens on y trouve, comment on compose avec les différentes particularités, les différentes réalités. Donc, c'est extrêmement intéressant, instructif un peu là-dessus. Et à ça, on rajoute aussi une couche, parce qu'on le disait, dans le fond, ce que Svian adapte, c'est un journal qu'elle avait écrit alors qu'elle travaillait à l'époque, mais évidemment, c'est la Svian d'aujourd'hui qui fait cette adaptation-là, et donc ça l'amène, elle, à se revoir telle qu'elle était il y a pratiquement 10-15 ans. Avoir ses prétentions, avoir sa personnalité, avoir son regard sur le monde, et ça devient aussi extrêmement confrontant de voir où on était, et de voir où on s'est rendu. J'ai pas personnellement beaucoup ou tout court de documents qui me permettent de voir qui j'étais il y a 20 ans, mais si j'en avais, je pense que ça serait extrêmement intéressant justement de replonger là-dedans pour simplement revoir la perspective que j'avais sur le monde. Et évidemment, ça amène des chocs, ça amène des chocs de valeur. Avec soi-même, on peut en avoir. Et Zviane ne cache pas ces éléments-là, ne cache pas les choses sur elle-même qui la frustraient ou qui la découragent aujourd'hui. Et donc, ça amène une dimension additionnelle, donc au-delà de la description comme telle de la réalité du camp et de ce quotidien-là qui, en soi, est intéressante. Bon, on ajoute une couche sur les éléments de la personnalité, sur l'âge, sur le regard qu'on porte sur soi-même, qui est quand même une thématique qui est présente sporadiquement dans certaines œuvres de Zviane. Je pense au film La pureté de l'enfance qu'elle avait faite, où elle avait adapté des fils audio d'elle quand elle était jeune, qu'elle avait retrouvé. Donc, on reste un peu dans cette dynamique-là, ou avec Ping Pong, dans lequel elle avait réédité, mais commenté un ouvrage réflexif qu'elle avait fait il y a quelques années auparavant. Donc, cette volonté-là de se remettre en question et de prendre acte du chemin intellectuel et social par parcouru, ça devient aussi quelque chose de très, très intéressant et qu'on retrouve donc dans Yo-Yo, La La La, et ce qui fait ben, qu'on va au-delà du simple étalage avec des beaux visuels, des couleurs très criardes, des personnages un peu plus dessinés très simplement, de façon très minimaliste, mais ça fonctionne. Donc ça aurait fonctionné, mais ça ajoute donc ce plus-là qui rend la lecture d'autant plus intéressante parce qu'on a nécessairement aussi des points de relation avec l'autrice qui émanent de ces réflexions-là. Alors ça, c'est Yo-Yo La La La, c'est de Zviane. C'est disponible du côté de Pow Pow. Peut-être deux petits derniers avant de se laisser rapidement la pastèque qui nous a offert aussi tout nouveau Box Brown, l'incroyable Andy Kaufman. Box Brown, un auteur documentaire que je trouve fort intéressant, qui a vraiment une belle maîtrise, une belle capacité à mettre en scène des sujets complexes et à les vulgariser de façon intelligente tout en maximisant, dans le fond, le potentiel de la bande dessinée là-dedans. Je pense à Tetris, je pense à Cannabis sur la criminalisation de la marijuana aux États-Unis. Et avec l'incroyable Andy Kaufman, on retrouve plutôt Bugs Brown, on le retrouve plutôt avec des liens avec son travail sur André le Géant qu'il avait fait, édité également en français à la pastèque, donc où on jouait un peu avec la réalité et le mythe autour de cette figure incontournable de la lutte professionnelle internationale. Avec l'incroyable Andy Kaufman, donc Box Brown nous amène à la découverte de ce comédien, cet humoriste amoureux d'absurde, amoureux de malaise aussi qu'il s'amusait à créer sur scène, et amoureux aussi de lutte professionnelle. Donc, ce qui fait qu'il y a un peu deux zones à l'intérieur de l'ouvrage. Donc, il y a la carrière, de façon générale, d'Andy Kaufman, son intérêt, son histoire, son évolution dans la sphère de l'humour, mais ce qui prend vraiment l'avant-scène, ça reste son intérêt pour la lutte professionnelle, donc qui, j'ai l'impression, côté de son intérêt pour Elvis, c'est un peu ses deux grandes obsessions, on pourrait dire, au fil de sa carrière, au fil de sa vie. Et donc, on découvre l'intérêt de Kaufman pour les vilains, ces acteurs qui sont plus grands que nature dans la sphère de la lutte professionnelle, et son intérêt à personnifier lui aussi éventuellement un vilain, chose qu'il allait pouvoir faire lors d'un passage à Memphis, lors d'une querelle qui est devenue légendaire avec Jerry the King Lawler. Et un peu à l'image donc d'André le Géant, ben, c'est une belle opportunité d'entrer un peu dans les coulisses de la lutte professionnelle, dans les mécanismes, dans les rouages de la lutte professionnelle, mais à travers l'expérience, si vous allez me permettre l'anglicisme, d'un outsider, donc d'une personne qui était extérieure à ce milieu-là, mais qui, avec sa célébrité et avec sa passion, s'est insérée un peu là-dedans pour créer vraiment un premier passage marquant d'une vedette, d'une célébrité hors de la sphère de la lutte, dans une participation active. Il a fait un et plusieurs matchs, donc au sein du ring et au-delà du ring également. Alors, si vous avez un intérêt pour Kaufman, si vous avez un intérêt pour la lutte professionnelle, eh bien, c'est certain que vous allez retrouver quelque chose d'intéressant dans l'incroyable Andy Kaufman. Il faut dire aussi qu'en termes de biographie, et on en parle peut-être un peu dans l'album, mais on offre un portrait peut-être un peu plus mesuré, un peu plus balancé de Kaufman que ce qu'on pouvait retrouver ailleurs. Je pense par exemple au film Man on the Moon qui donnait une vision peut-être un peu plus carrée de Kaufman. Donc on est probablement plus fidèle, ou on semble plus fidèle à ce que Kaufman était réellement à travers cet ouvrage, à travers ce portrait. Donc, l'incroyable Andy Kaufman de Box Brown, forte recommandation de mon côté. C'est édité à la Pastèque en français. Et dernier clin d'œil, je ne passerai pas très longtemps là-dessus parce que je vous en ai parlé au fil des années, mais c'est simplement pour vous signaler que l'intégrale est arrivée. Il s'agit du guide du mauvais père de Guy Delisle, donc Delcourt, qui, après avoir édité une série de petits albums, je pense que c'était 4 tomes, ben, a choisi de les mettre tous ensemble pour qu'on puisse découvrir de façon linéaire ce projet humoristique offert par Guy Delisle au fil des dernières années. Donc, on le sait, après avoir fait les chroniques de Jérusalem, il avait choisi de s'éloigner un peu du style témoignage et s'était plutôt amusé à s'inventer un personnage de mauvais père et à jouer un peu avec des relations familiales pour donc nous tisser le portrait de cette paternité négative mais sympathique. Donc, au fil de ces albums-là, ça rentre un peu dans la tangente des parents indignes, un peu comme la mère indigne, par exemple, au Québec et autres. Donc, ce type de réflexion-là, ce type d'humour-là qui était présent, dans le fond, pendant quelques années. Essentiellement, je me rappelle, le principal reproche que j'avais souvent envers le guide du mauvais père, c'est que c'était court, que j'aurais eu envie de m'en mettre un peu plus sous la dent, eu envie de poursuivre un peu la lecture et l'expérience au-delà des quelques pages. Donc, ça finissait vite. Eh bien, avec l'intégrale, on contourne cet élément-là, on se retrouve avec, justement, la version intégrale de l'ensemble de ces récits-là. Alors vraiment, si vous aviez hésité un peu à vous lancer dans cette série-là parce que justement, on se disait, ben, j'ai pas envie de dépenser pour avoir ce petit ouvrage-là, ben, vous pouvez vous lancer sur l'intégrale. Ça reste les mêmes anecdotes, ça reste rigolo. Plus de gags qui marquent un but que d'autres qui ratent leur coup. Donc, ça reste éminemment sympathique. Mais évidemment, si vous avez déjà les autres ouvrages, ben, y a pas d'intérêt là, à plonger, à aller chercher donc, cette intégrale-là. Il va sans dire. Alors, je vous signale qu'elle existe et qu'elle est disponible chez Delcourt. Donc, l'intégrale du guide du mauvais père de Guy Delisle. Alors ben voilà, nous c'est ainsi qu'on va terminer cette édition de La vie en BD. C'est Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir évidemment d'être avec vous pour cette première de cette 11e saison. Et on se retrouve dorénavant au fil des prochaines semaines, des prochains mois, toujours ici au micro, donc de La vie en BD.